C'est un espace éminemment libre, comme il n'y en a pas d'autre dans la vie. C'est un espace libre. Donc vous pouvez exprimer ce que vous voulez, même des choses auxquelles vous ne croyez pas.
On tente de se maintenir en vie. Là. C'est juste l'entre-deux. La trace.
Regard intime. Chers auditeurs, nous vous proposons pour ce 8e numéro de Regards intimes un entretien avec François Bérard, directeur de la maison d'édition de théâtre Les Solitaires Intempestifs. Il nous évoque son travail d'éditeur et ses liens avec la scène théâtrale. Bonne écoute à tous.
C'est une maison que j'ai fondée avec Jean-Luc Lagarce à l'époque où on était en compagnie. Et en fait, l'idée était simple, on avait lu les textes d'Olivier Py qu'on appréciait. Et on a dit à Olivier, écoute, puisque personne ne veut t'éditer, on va créer une maison d'édition et on va éditer tes textes. Voilà, donc c'est... L'histoire a commencé comme ça en 94. Alors, voilà. Ensuite, en fait, si vous voulez, Jean-Luc Lagarce ne voulait pas qu'on publie ses textes. Voilà. Je l'ai un peu obligé parce que personne ne voulait éditer ses textes à l'époque en 95 et on jouait Music Hall. Donc, on a publié ses textes, voilà, un peu contre sa volonté. Et après son décès, on s'est dit qu'on allait quand même continuer à publier des textes. Voilà. Et donc, la société s'est restructurée de manière indépendante en 98. Et puis, depuis cette époque, on a payé 400 textes.
Alors justement, sur ce catalogue, on va y venir. Il est assez particulier, enfin, en tout cas, il est particulier et propre aux maisons d'édition de théâtre en général. Il y a vraiment des classiques contemporains, des textes importants, des textes du répertoire contemporain aussi, des refus aussi, et même des collections de réflexions assez larges sur la politique dramaturgique, sur le spectacle. Collection, ça va être du désavantage du vent. Je crois que vous pouvez nous parler un peu de ce catalogue, de ces différents horizons, et quelle est l'importance pour les solitaires intempestifs de mettre en avant autant de palettes finalement dans l'actualité théâtrale.
Bah déjà, la première chose, c'est qu'au fond du théâtre, parce que je connais que le théâtre, donc c'est un peu par défaut. Si je connaissais des romans que je puisse publier, je le ferais avec un réseau d'auteurs, au fond. Voilà. Donc après, l'idée, elle n'est pas tellement sur le répertoire théâtral. L'idée, elle est un peu utopique de dire que le théâtre est au centre du monde. Donc à partir de là, c'est l'enjeu d'une réflexion sur le monde. Donc si on fait effectivement des textes de philosophie, si on fait des textes liés, ça s'appelle les avantages du vent, au fond, c'est des aventures artistiques au sens large. Voilà. Et puis, effectivement, à partir de là, je dirais qu'on baigne dans un milieu théâtral, donc le théâtre est au centre. Voilà. Mais a priori, ce n'est pas une volonté particulière sur l'actualité théâtrale, etc. C'est un projet qui se déplie autour de l'idée que le théâtre est central dans le monde.
Et les revues, leur importance, elle est assez particulière parce que c'est aussi une autre manière de...
Alors, bah, sur les revues, c'est un peu deux choses. C'est-à-dire que après, il y a un aspect, je dirais, pratique et professionnel qui dit que nous, on assure aussi la diffusion et la distribution. Donc après, l'idée des revues, ce sont des projets qu'on soutient en diffusion, en distribution. A priori, comme on pense qu'on est mieux équipé par rapport à ça, donc on propose nos services à des maisons amies qui ont revu que nous on peut pas de toute façon développer. Donc bon, la dernière c'est du TNH où c'était un très beau projet. Et donc en fait on met plutôt un service professionnel de diffusion à leur service.
Et du coup il y a vraiment une importance particulière accordée aux philosophes solitaires intempestifs. La plupart des ouvrages de théorie, qui ne sont pas simplement pour les étudiants en théâtre, quoi, vraiment des ouvrages de réflexion critique qui sont publiés au Solitaire Intempestif. Donc, comment on construit un tel projet au départ?
Déjà au départ, c'est cette idée d'ouvrir sur le monde, tout simplement, une réflexion sur le monde. Voilà. Après la philosophie, il y a aussi un directeur qui est de la collection qui est Denis Guénoun. Donc après, c'est des propositions qu'on intègre au catalogue, mais c'est vraiment une volonté aussi d'ouvrir, comme vous le dites, aux questions du monde. Voilà. Après, par exemple... ça s'appelle Utopie et stratégie socialiste, c'est le texte fondateur de Podemos, mais on ne le savait pas au départ. Voilà. Donc après, effectivement, ce sont un certain nombre de hasards de rencontres qui font qu'à un moment donné, ça arrive au catalogue. Voilà. Mais vraiment, toujours, c'est ce que je redis. Mais après, au fond, on peut dire que oui, il y a la collection de philo. Après, il y a plein de textes aussi de répertoire qui pensent le monde. Il ne faut pas avoir une idée réductrice de... Pour moi, le texte de théâtre, ce n'est pas des spectacles de théâtre. Je ne suis pas là pour faire ce qui reste des spectacles. On peut donner des exemples dans l'autre sens. Au fond, par exemple, Rodrigo Garcia, il ne revendique pas ses écritures comme texte de théâtre. Au fond, il dit que c'est après ce qui reste les cendres. Je ne suis pas forcément d'accord avec Rodrigo Garcia, j'aime bien ce qu'il écrit. Au fond, on connaît Rodrigo Garcia parce qu'il fait du théâtre. Voilà. Effectivement, moi, mon rêve, ça serait en fait qu'on lise Rodrigo Garcia en dehors du théâtre. Voilà. Et au fond, si on peut réussir quelque chose, c'est dire que... Au fond, il y a quand même. On lit pas du théâtre, on lit de la littérature. Il se trouve que c'est une forme théâtrale. Voilà. Et donc, par exemple, la collection qui s'appelle Fiction, la couverture blanche, où il y a par exemple le dernier Grand Prix de littérature avec Finir en beauté. Au fond, je défie quiconque. A priori, s'il n'y avait pas un spectacle, on ne saurait pas que c'est du théâtre. Donc, c'est aussi une interrogation sur la forme du théâtre. Je pense que l'écriture est aussi un endroit qui permet d'interroger la forme théâtrale, là, pour le coup, du plateau. Voilà. Mais ça peut partir aussi du plateau. Par exemple, Lagarce, il y a 30 ans, on pensait que... Enfin, même pas 30 ans, il y a 25 ans, on pensait que c'était un auteur mineur parce qu'on comprenait rien à ses textes. Et on se disait, ouais, c'est pas du théâtre. J'ai entendu 5000 fois, c'est pas du théâtre, c'est de la littérature ou c'est... ça marchera jamais. Voilà. Alors, au fond, on peut faire l'inverse aujourd'hui. Et au fond, on peut lire aussi Lagarce sans aller au théâtre. Je pense que c'est tout à fait passionnant de lire juste La fin du monde, même si on voit pas le film, même si on voit pas le théâtre. C'est pas pour moi le texte, il est pas derrière le théâtre, il est devant. Voilà, donc c'est plus le théâtre, on peut le lire, on peut le jouer. Voilà, avec sur le plateau, ben c'est qu'un spectacle. Et pour moi, le texte, c'est pas le souvenir du spectacle, c'est la littérature au sens noble, c'est un surgenre même. Voilà, parce qu'en plus on peut le lire, mais aussi on peut le jouer. Voilà, donc c'est mieux que le roman.
Et donc, vous parlez de ce lien avec la scène. Qui est évidemment très important pour un éditeur. Et moi, je voulais vraiment savoir comment ça s'effectue, ce lien, que ce soit avec les centres dramatiques nationaux, avec les petits théâtres, avec les festivals. Comment est-ce que ça se passe, l'échange peut-être, les propositions qui peuvent se faire, les partenariats
C'est une question compliquée parce qu'au fond, il y a de multiples cas, chaque cas est à part. Par exemple, il y a des textes qui arrivent par la poste, il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup qui arrivent, mais forcément, si on parle des textes qui vont être montés, voilà, donc on peut en publier qui ne sont pas montés, on peut espérer qu'ils le seront, voilà, s'ils ont une forme théâtrale. Après, les liens, ils sont multiples et variés. C'est-à-dire que c'est en fonction des projets, en fonction de ce qui m'arrive, de ce qu'on me dit, etc., en fonction des informations que j'ai. Voilà. Après, il y a certainement des textes formidables que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas eu l'information. Hein. Je veux dire, je n'ai pas tout. Les éditeurs, ils ne trient pas en sachant tout. Voilà. Donc, c'est une aventure qui ça avance au fur et à mesure des rencontres, des hasards et des lectures.
Vous êtes spectateur avant tout, en fait.
Pour l'édition, je suis plutôt lecteur quand même, déjà, avant tout quand même. Après, je vais beaucoup au théâtre, déjà évidemment par goût. Après, j'ai quand même une activité de metteur en scène, j'étais aussi acteur, je m'occupe aussi du site Théâtre Contemporain. Donc oui, je suis l'actualité théâtrale. Je vis un peu dans le théâtre, oui, voilà, de manière assez large.
Un jour les anges en ont marre qu'on reste sourd à leur mission. Alors avant qu'il soit trop tard, les anges blessés s'envoleront au même signal d'une sentinelle dans un même battement d'ailes. Un jour, tous les anges rebelles rejoindront la vie éternelle. Si tu me cherches ce jour-là, vers l'au-delà, lève les yeux. Si tu me cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux. Un jour les anges en ont marre de se faire avoir, perdre leurs plumes, sans crier gare, sans faire de bruit, ils s'éclipseront dans la brume. Mais quand les anges disparaîtront, faudra faire sans leur protection. Qui donc y fera attention? Eux qu'on prend pour un gang de pigeons. Ouais, un gang de pigeons. Cherche ce jour-là, vers l'au-delà, lève les yeux. Si tu cherches ce jour-là, regarde là-haut vers les cieux. Je serai peut-être parmi eux quand on reste trop silencieux. C'est même plus dire adieu.
Pour en venir plus précisément aux critères finalement, ce que vous attendez, alors c'est peut-être difficile à énoncer, mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un texte, d'ailleurs d'un texte de non-théâtre, parce que les formes s'écrivent un peu, ça veut plus dire grand-chose. Qu'est-ce que vous attendez d'un texte de manière générale pour le publier ou voilà, pour que ça ait un intérêt
Ce que j'attends, au fond, ce que j'attends, j'attends rien. C'est-à-dire que par définition, c'est la surprise. J'attends d'être surpris et puis de lire avec plaisir quelque chose en me disant ça peut intéresser. Moi, ça m'intéresse, ça peut intéresser d'autres personnes. C'est un peu ça le critère de base. Après, je ne vais pas donner des exemples. Mais bon, il y a des textes qui m'ont intéressé et puis au hasard, ça a intéressé d'autres personnes. Voilà, c'est aussi modeste que ça, oui modeste, peut-être dans l'autre sens, voilà, c'est juste ça le critère de départ. Après, je suis pas seul dans mon coin, sans information, c'est-à-dire, s'il y a un texte qui va jouer 250 fois, c'est sûr que par rapport au théâtre, c'est pas la même logique, c'est pas la même... Enfin, l'édition, c'est aussi un aller-retour permanent entre, au fond, une question littéraire et puis une question quand même économique. Si je fais que des textes qui se publient que personne ne lit, on va pas en faire longtemps, hein, des textes. Voilà, donc il faut être un peu en phase avec l'actualité. Effectivement, après, c'est toujours agréable quand on publie un texte, c'est qu'au fond, on a déjà le texte en magasin qui est dans l'actualité après. Voilà, donc après, pour l'ego, c'est toujours bien d'avoir, je l'ai lu, je l'ai publié, et puis maintenant, voilà. Après, quand on publie un texte, par définition aussi, on le fait lire à des gens. Donc ça veut dire que les metteurs en scène, ils peuvent lire aussi les textes que je publie, ça peut leur donner des idées. Voilà. Après, s'il y en a qui lisent parce qu'ils aiment bien les éditions solidaires intempestives, voilà. Moi, je pense que les gens n'aiment pas tout, ils lisent tout. C'est ça, c'est formidable ce que tu publies, mais enfin, ils lisent pas les livres non plus. Donc, voilà. Voilà, donc c'est quand même. C'est un peu l'intérêt de l'édition, quoi. C'est quand même multiple. Dans le théâtre, on est quand même en phase avec une réalité. Le théâtre, c'est quand même aujourd'hui, c'est pas demain. C'est-à-dire qu'au fond, si. Il y a un auteur génial qui sera monté dans 50 ans, la maison aura disparu depuis longtemps avant qu'on découvre. Voilà. Après, il faut un équilibre. À la fin de l'année, on est prié de ne pas être déficitaire. Voilà. C'est ça la règle en fait. Juste ça. Il faut le 31 décembre, que ce ne soit pas un moins, que ce soit pas un gros plus. C'est la chance qu'on a parce qu'on n'a pas les actionnaires qui demandent des dividendes. Après, on est prié de ne pas être négatif à la fin de l'année.
Et oui, du coup, il y a aussi une vraie question. Du coup, selon vous, vraiment, la diffusion du livre, elle ne dépend pas uniquement du monde du théâtre, en fait, la diffusion des bouquins des solitaires.
La diffusion, elle dépend déjà, nous, on vit essentiellement sur les ventes en librairie, donc elle dépend des libraires. Donc après, elle dépend de la place qu'il y a pour les livres dans les librairies, voilà. Alors après, par exemple, effectivement, si vous publiez du théâtre, ce qui est bien, c'est que le théâtre soit le livre soit en vente dans le théâtre. Donc après, ça dépend aussi de la volonté des théâtres. Par exemple, l'Odéon qui ferme la librairie à Berthier, je trouve ça scandaleux. Voilà, alors évidemment, du coup, moi, je me dis, si c'est à Berthier, je ne vais pas publier un texte parce qu'il va rester, il ne sera pas au meilleur endroit de la vente, c'est quand même au moment du spectacle. Voilà, si vous n'avez pas vos livres, c'est quand même un peu embêtant. Alors, voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même des petits théâtres, il y a des compagnies qui emmènent les textes avec eux, etc., qui ont un vrai souci de la diffusion. Et puis, il y a quand même des théâtres nationaux, je suis désolé de le dire, mais qui pensent que ça coûte trop cher d'avoir un rayon librairie. Je trouve ça grave pour un théâtre national.
Et oui, j'ai aussi une question qui est vraiment liée à ça. Vous avez parlé de théâtrecontemporain.net, vous gérez le site aussi, je crois. Du coup, il y a vraiment des découvertes de projets, de textes que vous découvrez par le biais de ce réseau, ou c'est purement, enfin, c'est autre chose encore. Est-ce que les deux plateformes finalement sont liées?
Non, elles ne sont pas liées. C'est deux structures indépendantes. Enfin, elles n'ont rien à voir, c'est pas les mêmes, c'est pas le même personnel, c'est pas les mêmes personnes. Le point commun, c'est moi. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai connu cette activité, c'est comme metteur en scène. Alors au fond, c'est un non-choix si on veut. Enfin, j'ai jamais voulu être. Je suis pas employé permanent. Je suis directeur éditorial au Solitaire. Voilà. Après, c'est quand même. Enfin, je préférais qu'il y ait des personnes qui sont engagées pour vendre les livres plutôt que d'avoir un salaire qui fait que je fais que ça. Ça m'intéressait pas plus que ça. Voilà. Et puis, économiquement, les Solitaires, c'est juste. Enfin voilà, par rapport au personnel, il n'y a pas de quoi. Voilà. Donc moi, j'ai une autre activité. Comme quand je suis metteur en scène, j'ai une autre activité qui est effectivement de sur le théâtre, de promouvoir la ressource en ligne. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Après, du coup, je suis un peu au courant parce que je fais beaucoup d'entretiens avec les auteurs, hein, je vois passer l'actualité, etc. Donc je suis au courant de ce qui se passe. Voilà. Découvrir, oui, enfin, je rencontre plein d'auteurs, je fais même des entretiens avec des auteurs que je ne publie pas, donc il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est comme quand vous jouez un spectacle, vous jouez devant plein de gens que vous ne connaissez pas, théâtre contemporain, c'est plein de gens que je ne connais pas, je rencontre des auteurs. Voilà, après j'ai des liens avec des auteurs que je ne publie pas, qui sont amicaux, c'est pas, voilà, donc c'est pas de... Non, je ne suis pas sectaire sur le solitaire.
Et du coup, pour en revenir au solitaire, les textes les plus lus, disons, quels sont-ils de manière générale? C'est les plus anciens ou il y a vraiment une grosse diffusion des nouveautés, des nouvelles parutions? Comment est-ce que se fait l'équilibre, justement?
Ah, effectivement, les textes les plus lus, c'est ceux qui sont les plus lus, c'est ceux qui sont joués, voilà. Ou alors ceux qui sont très connus par ailleurs, je sais pas, par exemple, par exemple, La Garce, Du Luxe et de l'Impuissance, c'est quelques dizaines de milliers d'exemplaires, donc ça n'a rien à voir avec le spectacle, mais les gens le lisent, voilà. Après, il y a des auteurs qui ont plus de notoriété que d'autres, donc, par exemple, Jean-Pierre Siméon, on a publié beaucoup de textes, mais qu'il y ait des spectacles ou pas, il y en a toujours un peu, ça vend toute l'année pareil, hein, d'une certaine manière, depuis des années, il vend quelques milliers d'exemplaires tous les ans, voilà, donc ça c'est... Donc il y a des fonds qui tournent, après il y a des fonds où on a beaucoup de choses, en fonction de l'actualité, même si c'est pas ce qu'on a, il y a plus de ventes, voilà, on vend plus de Claude Régis quand il fait un spectacle, quand il ne la fait pas, même si on ne publie pas les textes de ses spectacles, voilà. Donc voilà, donc, l'actualité théâtrale, forcément, elle génère des ventes sur des auteurs qu'on publie, c'est assez logique. Et les moins bonnes ventes sont des gens que personne n'a jamais monté et que personne n'a lu. Voilà, c'est assez logique.
Et donc du coup, pour vraiment un dernier questionnement, il y a vraiment dans une maison d'édition un équilibre à trouver entre une espèce de contrat littéraire et un contrat économique. Vous diriez ça comme ça ou vous diriez ça autrement?
Bah, c'est la logique d'une maison d'édition, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si vous ne vendez pas de livres, hein, vous ne pouvez pas éditer d'autres livres. Hein. Ça, c'est la logique. Après, je sais pas, oui, c'est un peu la logique. Après, moi, je trouve que c'est un peu miraculeux. Voilà, je trouve que voilà, le fait d'exister encore après toutes ces années, après 20 ans, 25 ans d'édition, je trouve ça incroyable. Voilà. Donc, je suis le premier surpris, comme disait cette phrase de Jouandeau, après tant d'années que la surprise dure encore, c'est beau.
Et du coup, dernière question, est-ce que vous considérez en tant qu'éditeur comme un artiste en fait, ou comme un passeur? Enfin, si on devait mettre un nom sur le rôle, qu'est-ce que vous diriez?
Moi, je me considère comme pas grand-chose. C'est pas tellement le problème. Finalement, c'est parce qu'il y a des lecteurs, des livres qu'on publie, qu'on dit que je suis éditeur. Moi, personnellement, c'est déjà pas ma profession à plein temps, donc je peux pas dire que je suis éditeur. Ça s'est fait un peu au-delà de moi-même. Voilà, parce que je disais, j'ai eu certains goûts, certains. Voilà, qui font que j'ai la chance que certains choix soient partagés par d'autres. Voilà, c'est un peu ça. Après, non, c'est plutôt miraculeux qu'autre chose. J'ai pas de ce point de vue-là. C'est un peu un conte de Noël.
Bien, merci François Verreur d'avoir répondu à nos questions.
Ben, merci à vous.